Ce matin, j'ai reçu deux lettres, l'une de mon père et l'autre de Paul. Je recommence. Ce matin, j'ai reçu deux lettres, l'une de mon père et l'autre de Paul. Le premier, mon père, m'écrit.
Notre ville se prépare pour la fête. Je regrette que tu ne puisses y assister. Il n'y en aura pas eu de plus belle depuis des années et des années.
Je recommence.
Je ferai des sacrifices considérables qui consacreront ma richesse et ma gloire. J'espère que tu travailles ardemment et que tu te montreras digne de cette bourse honorifique que j'ai eu tant de mal à te faire obtenir. Heureusement que j'ai pu te décrocher cette distinction méritoire qui t'assure une situation brillante, respectable et inédite. Guide, interprète, breveté de la ville natale. N'est-ce point beau ? Quel avenir, fiston ? Quelle reconnaissance ne me dois-tu pas ? Sans moi, que serais-tu ? Pour moi, que ne dois-tu faire ? Rends-toi digne de mon grand nom. Travaille.
Le second, mon frère, Paul, m'écrit.
Merci pour le moyen de locomotion à deux roues que tu m'as envoyé. Je sais maintenant m'en servir et j'étonne les populations, ce que je ne désirais pas. Tout le monde dit que cette année, la fête dépasse en splendeur tout ce qui s'est vu jusqu'à présent. C'est embêtant que tu ne sois pas là. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Jean, notre frère, fait de curieuses découvertes. Il est sur une piste vraiment très drôle. Nous attendons d'être sûrs de nous pour t'informer de cette extraordinaire nouvelle. Le vélocipède me sert beaucoup.
Une découverte est une découverte. Une piste n'est pas une découverte. Je recommence. Je vis vraiment en étranger dans cette ville étrangère. Sans aucun contact avec sa population, je ne connais guère que la logeuse, le professeur et le gardien. Je n'ai même pas avec les habitants ces rapports moyens et foultitudinaires qu'engendre l'utilisation des transports en commun, car je me déplace uniquement par le moyen de la birotation. Ma bicyclette me transporte de l'endroit où ma logeuse veille à l'endroit. Putain. Ma bicyclette me transporte de l'endroit où ma logeuse veille à l'endroit où mon professeur enseigne et de là, le plus souvent, à l'endroit où le gardien règne. Je roule à travers la ville étrangère, sans aucune relation avec la foule compacte qui se presse dans ces rues, sinon les injures que je ne comprends pas des conducteurs d'autobus et les admonestations des agents vigilants de la milice urbaine veillant à la régularité de la circulation. Les seules relations existantes sont celles que je me construis pour moi-même, par moi-même. Autrement dit, parmi les réels, j'en envoie point de féminine. La vie, je la regarde chez le homard. Alors c'est épouvantable. C'est épouvantable. Lui, le homard, s'en trouve bien. On le croirait du moins. Je viens d'écrire à mon père ce que je pensais de la vie des homards. Je sens bien qu'il n'a pas d'idée là-dessus, mon père, mais je tiens à le mettre au courant des progrès de ma pensée. Mais je tiens à le mettre au courant des progrès de ma... Est-ce donc cela la vie? Ce silence, cette ombre, ces algues, cette espèce de férocité au bout des pinces, cette armure avide? Qu'on songe à la vie en pensant au homard dans l'obscurité. Et comment meurent-ils, ceux qui ne finissent pas ébouillantés dans les marmites ménagères? Décèdent-ils de vieillesse, les homards? S'en vont-ils tout doucement, ou bien combattent-ils la mort de leurs pinces durcies par l'arthritisme et sur lesquelles de petites annélides se sont incrustées? Soupçonne-t-il sa défonction, le homard? le homard, ne préférerait-il pas être une raie, par exemple, avec des yeux sur le bide et des ailes blanches? Ne préférerait-il pas pouvoir grimper aux arbres pour en dévorer les fruits, comme son collègue, le crabe des cocotiers? Cet animal véloce et dentelé.
Face de la terre, fier et libre, libre compagnon. Il en serait probablement ainsi. Supposons maintenant un homme et un homard, seul survivant de quelque catastrophe. Les flammes brouillent l'horizon. L'homme épuisé se dépouille de ses chaussures, déchiquetées, et de ses chaussettes, effilochées. Il trempe ses pieds sanglants dans la mer pour y chercher quelque douceur. Le homard vient alors et lui brise le gros orteil. L'homme qui a perdu l'habitude de hurler se penche à la surface de l'eau et dit au homard, nous sommes les deux seuls êtres vivants sur cette terre dévastée, homard. Nous sommes les seuls vivants de l'univers. Nous sommes seuls à lutter contre l'universel désastre. Veux-tu faire alliance, homard? Veux-tu faire alliance? Mais l'animal dédaigneux lui tourne la carapace et se dirige vers d'autres océans. Car sait-on à quoi songe un homard? Et que peut-on penser de son incompréhensible existence? L'image du homard, inflexible et imperturbable, transperce le ciel des humains de ses pinces inintelligibles. Par-dessus les toits brumeux de ma fenêtre ouverte, je crois voir se dresser soudain ces deux pattes menaçantes, ouvrant et refermant leurs tenailles gigantesques pour sectionner les constellations.
Thank you. Quand la piaule, comme ça, bouclée, est tendue tout le long sur le dallage, j'ai tremblé encore longtemps. Je m'en allais cogner partout. J'allais choquer dans l'armoire. Je faisais un bruit de castagnette. J'aurais jamais cru que je pouvais tenir dans l'intérieur une tempête pareille. C'était pas croyable comme saccade. Je cavalais comme une langouste. Ça venait du fond. Je l'ai estourbi, que je me disais. J'en étais de plus en plus certain, et puis alors, un moment, j'ai entendu comme des pas. Des gens qui discutaient le coup, et puis qui poussaient le lit en haut. Ça y est, les voilà qui le transportent. Après encore un moment, j'ai entendu alors sa voix, la sienne. Il était seulement sonné. J'ai dû lui défoncer le cassis. Il va crever tout à l'heure, que je me suis mis à penser. Ça va être encore bien pire. Toujours il était sur mon lit. J'entendais les ressorts. Enfin, je savais rien. Et puis alors, le cœur me soulève. Je commence à vomir. Je me poussais même pour me faire rendre. Ça me soulageait énormément. J'ai tout dégueulé. La grelotte m'a repris. J'en gigotais tellement fort que je me reconnaissais plus. Je me trouvais étonnant moi-même. J'ai vomi le macaroni. J'ai recommencé. Ça me faisait un violent bien, comme si tout allait partir. Partout sur le carreau, j'ai dégueulé tout ce que j'ai pu. Je me poussais dans la contraction. Je me cassais en deux pour me faire rendre encore davantage. Et puis les glaires, et puis de la mousse. Ça filait. Ça s'étendait jusque sous la porte. J'ai tout vomi la tambouille d'au moins 8 jours auparavant, et puis en plus de la diarrhée. Je voulais pas appeler pour sortir. Je me suis traîné jusqu'au bro qui était debout près de la cheminée. J'ai chié dedans. Et puis je tenais plus d'équilibre. J'avais la tête qui tournait trop. Je me suis écroulé à nouveau, j'ai tout lâché sur le dallage. J'ai foiré encore. C'était une débâcle marmelade. Ils ont dû m'entendre farfouiller. Ils sont venus ouvrir. Ils ont jeté un œil dans la pièce. Ils ont refermé encore à clé. Après peut-être 10 minutes, c'est l'oncle Édouard qui est entré. Il était absolument seul. J'avais pas remis ma culotte. J'étais comme ça en pleine cacade. Il avait pas peur de moi. « Rhabille-toi maintenant », qu'il m'a dit. « Descends en avant, je t'emmène. » Il a fallu qu'il me donne la main. Je pouvais pas me reboutonner tellement que je tremblais de partout. Enfin, j'ai fait comme il me disait. Je suis passé devant lui pour descendre. Il y avait plus personne dans notre escalier, ni dans la boutique non plus. Tout le monde était débiné. Ils devaient être rentrés chez eux. Ils avaient de quoi raconter. Au cadran, là-haut, sous le vitrage, il était 4h15. Il faisait déjà un petit jour. Au bout du passage, on a fait relever le gardien pour qu'il ouvre la grille. « Vous l'emmenez alors ?» qu'il a demandé à mon oncle. « Oui, il va coucher chez moi. »« Eh bien, à vous toute la chance, à votre bonne santé, cher monsieur. Vous avez un beau phénomène, » qu'il a répondu. Il a refermé derrière nous et à double tour. Il est retourné dans sa turbe. Il ramenait encore de loin. « Ah ben merde, il est frais le coco !» On a pris avec mon oncle toute la rue des Pyramides. On a traversé les Tuileries. Arrivé au pont Royal, j'avais toujours la tremblade. Le vent du fleuve, il réchauffe pas. Alors, tout en avançant, il m'a raconté l'oncle Édouard comment ils étaient venus le chercher. C'était Hortense, paraît-il. Il était déjà endormi. C'était pas tout près, son bled. C'était plus loin que les Invalides, derrière l'école militaire, rue de la Convention, avant la rue de Vaugirard. J'osais pas demander d'autres détails. On marchait tout à fait vite. Et puis, je pouvais pas me réchauffer. Je claquais toujours des dents. « Ton père va mieux », il m'a fait à un moment donné. « Mais il restera sûrement couché encore 2 ou 3 jours. Il ira pas au bureau. Le docteur Capron est venu. » C'est tout ce qu'il m'a dit. On a pris par la rue du Bac et puis à droite, jusqu'au Champ de Mars. C'était au diable, son Garneau. Enfin, on arrive, c'est là. Il me le montre, son domicile. Une petite maison au fond d'un jardin, au deuxième sa crèche. J'osais pas me plaindre de la fatigue, mais quand même je tenais plus en l'air. Je me rattrapais après la rampe. Il faisait maintenant complètement jour. Une crise m'a repris dans l'étage, une nausée terrible. Il me conduisit lui-même aux chiottes. J'ai dégueulé encore longtemps, ça revenait. Il sort un liquage du placard, il ôte un matelas à son lit, il m'installe dans une autre pièce. Il me passe aussi une couverture, je m'affale dessus, il me déshabille, je crache encore tout un flot de glaire, enfin je m'endors par un coup. C'est un cauchemar qui m'attrape. J'ai sommeillé que par sursaut. La façon qu'il s'est arrangé, l'oncle Édouard, pour que mon père insiste plus, qu'il me foute entièrement la paix, je ne l'ai jamais su exactement. Je crois qu'il a dû lui faire comprendre que son truc disciplinaire de m'envoyer à la roquette, c'était pas encore si peinard, que j'y resterais peut-être pas toujours, que je m'échapperais peut-être tout de suite, exprès pour venir le buter, et puis qu'alors, cette fois-là, je le ratatinerais pour le compte. Enfin, il s'est débrouillé. Il m'a pas fait de confidence. Je lui en demandais pas non plus. Chez l'oncle, son logement, c'était gentiment situé. C'était riant, agréable. Ça dominait sur les jardins rue de Vaugirard, rue Montblanc. Il y en avait des ribambelles de petits bosquets, de potagers, devant et derrière. Ça grimpait les chèvrefeuilles tout autour des fenêtres en façade. Chacun avait son petit carré entre les maisons, radis, salades et même des tomates et de la vigne. Ça me rappelait tout ça ma laitue. Elle ne m'avait pas porté bonheur. Je me sentais faible extrêmement, comme si je relevais d'une maladie. Mais dans un sens, je me trouvais mieux. Je me sentais plus du tout traqué au domicile de l'oncle Édouard. Je recommençais à respirer. Dans sa chambre à lui, il y avait comme embellissement des séries entières de cartes, épinglées en éventail, en fresque, en guirlande. Les rois du volant, les rois de la pédale et les héros de l'aviation. Il se les payait tous au fur et à mesure. Son projet final, c'était que ça forme une tapisserie, que ça recouvre entièrement les murs. Ça serait bien plus long à présenter. Volant et son petit raton fourré, Rougier, le grand arabe tordu, petit breton, volet d'acier, maillot de zèbre, Farman, la barbe, Santos Dumont, Fétus intrépide, le vicomte Lambert, spécialiste de la tour Eiffel, la dame, grand fétus, le panthère noir, le marin, sa femme forte, le temps qui glisse. Une centaine d'autres gloires aussi de la boxe, forcément. On n'avait pas la mauvaise vie. On s'arrangeait pas mal. Mon oncle, rentrant de son business, une démarche pour sa pompe, me parlait des events sportifs. Il supputait tout guérisser. Il connaissait toutes les faiblesses et toutes les astuces des champions. On déjeunait, on dînait sous la pluie cirée, on faisait la tortue. Sa seconde pièce. Mon sort était en suspens. Mon père voulait plus me revoir. Il continuait ses bafouillages. Ce qu'il aurait voulu, par exemple, c'est que je parte au régiment. Mais j'avais pas encore l'âge. Je comprenais tout ça par bribes. L'oncle, il aimait pas qu'on en cause. Il aimait mieux parler des sports, de sa pompe, de boxe, d'ustensiles, de n'importe quoi. Les sujets brûlants, ça lui faisait mal. Et à moi aussi. Tout de même, à propos de ma mère, il devenait un peu plus bavard. Il me ramenait comme ça des nouvelles. Elle pouvait plus marcher du tout. Je tenais pas beaucoup à la revoir. À quoi ça aurait servi? Elle disait toujours les mêmes choses. Enfin, le temps a passé. Une semaine, puis deux, puis trois. Ça pouvait pas s'éterniser. Je pouvais pas prendre des racines. Il était gentil, mon oncle, mais précisément. Et puis alors, comment vivre? Rester toujours à sa charge? C'était pas sérieux. J'ai fait une petite allusion. On verra plus tard, qu'il a répondu. C'était pas du tout pressé, qu'il s'en occupait. Il m'a appris à me raser. Il avait un système spécial, subtil et moderne, et remontable dans tous les sens et même à l'envers. Seulement alors si délicat que c'était un boulot d'ingénieur quand il fallait changer la lame. Ce petit rasoir si sensible, c'était un autre nid à brevet. Une vingtaine en tout, m'a-t-il expliqué. C'est moi qui préparais la table, qu'allais chercher les provisions. Je suis resté comme ça dans l'attente et la fainéantise encore presque un mois et demi, me prélasser comme une gonzesse, Jamais ça m'était arrivé. Je faisais aussi la vaisselle. Il n'y avait pas d'excès au chiffon. Après, je me promenais où je voulais. Exactement. C'était une affaire. Je n'avais pas un but commandé. Rien que des véritables balades. Il me le répétait tous les jours avant de sortir l'oncle Édouard. Va te promener, va donc, Ferdinand. Comme ça, droit devant toi. T'occupe pas du reste. Va par où ça te fera plaisir. Si t'as un endroit spécial, vas-y, vas-y donc. Jusqu'au Luxembourg, si tu veux. Ah, si j'étais pas si pris, j'irais moi voir jouer à la paume. J'aime ça, moi, la paume. Profite donc un peu du soleil. Tu regardes rien, t'es comme ton père. Il demeurait encore un instant. Il bougeait plus. Il réfléchissait. Il a rajouté, et puis tu reviendras tout doucement. Je rentrerai ce soir un peu plus tard. Il me donnait en plus un petit flouze, des 30 sous, 2 francs. Entre donc dans un cinéma. Si tu passes par les boulevards, t'as l'air d'aimer ça, les histoires. De le voir aussi généreux, et moi de lui rester sur le rable, ça commençait à me faire moche. Mais j'osais pas trop raisonner. J'avais trop peur qu'il se formalise. Depuis toute cette comédie, je me gaffais dur des conséquences. J'attendrai donc encore un peu que ça se rembine de soi-même. Pour ne pas occasionner des frais, je lavais tout seul mes chaussettes pendant le temps qu'il était sorti. Chez lui, c'était disposé. Par les pièces en enfilade, mais les unes assez loin des autres. La troisième, près de l'escalier, elle était curieuse. Ça faisait comme un petit salon, mais presque avec rien dedans. Une table au milieu, 2 chaises et un seul tableau sur le mur. Une reproduction, une immense de l'Angélus de Millet. Jamais j'en ai vu d'aussi large. Ça tenait tout le panneau entier. C'est beau, ça, hein, Ferdinand ? Il demandait l'oncle Édouard à chaque fois qu'on passait devant pour aller à la cuisine. Parfois, on demeurait un instant pour le contempler en silence. On parlait pas devant l'Angélus. C'était pas les rois du volant. C'était pas pour les bavardages. Je crois qu'au fond, l'oncle, il devait se dire que ça me ferait joliment du bien d'admirer une œuvre pareille. Que pour une vacherie comme la mienne, c'était comme un genre de traitement. Que peut-être ça m'adoucirait. Mais il n'a jamais insisté. Il se rendait tout à fait compte des choses délicates. Il n'en parlait pas, voilà tout. C'était pas seulement un homme pour la mécanique, l'oncle Édouard. Faudrait pas confondre. Il était extrêmement sensible, on peut pas dire le contraire. C'est même enfin à cause de ça que j'étais de plus en plus gêné. Ça me tracassait de plus en plus de rester là comme un plouc à goinfrer sa croûte. Un vrai sagouin culotté. Merde, ça suffisait. Je lui ai demandé, une fois de plus, je me suis risqué, s'il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que je me remette en campagne, que je relise un peu les annonces. « Reste donc par ici, » qu'il m'a fait. « T'es pas bien ? Tu souffres de quelque chose, mon zouave ? Va donc te promener, ça te vaudra mieux, te mêle de rien. Tu vas te refoutre dans des andouilles. C'est moi qui vais te trouver le boulot, je m'en occupe suffisamment. Laisse-moi faire tranquille, fourre pas ton blase de ce côté-là. T'as encore trop la pétasse. Tu peux seulement que tout bousiller. T'es trop nerveux pour l'instant. Et puis je me suis entendu avec ton père et ta mère. Va encore faire des balades. Ça durera sûrement pas toujours. Va par les quais jusqu'à Suresnes. Prends le bateau, tiens. Change-toi d'air. Y a rien de meilleur que ce bateau-là. Descends à Meudon si tu veux. Change-toi les idées. Dans quelques jours, je te dirai. Je vais avoir quelque chose de très bien. Je le sens. J'en suis sûr. Mais il faut rien brutaliser. Et j'espère que tu me feras honneur. Oui, mon oncle.